Bien, merci à Christine Ladré pour son accueil. Alors, exposer mes travaux, c'est un bien grand mot parce que je vais surtout exposer les travaux des autres. Hein, mais c'est aussi une des fonctions de la recherche d'essayer déjà de comprendre les travaux des autres et ensuite, une fois qu'on se les est appropriés, eh bien en faire un vecteur, je dirais, de formation à destination de formateurs ou d'enseignants qui sont éloignés au milieu de la recherche. Alors, je vais parler de l'évaluation. En réalité, je ne suis pas du tout un expert de l'évaluation. Donc, je ne vais pas vous parler d'évaluation, finalement. Je ne suis pas un expert de l'évaluation, c'est-à-dire que je ne suis pas un spécialiste des méthodes de l'évaluation. Je ne suis pas du tout un spécialiste des disciplines scolaires. Donc, je ne sais pas au nom de quoi, finalement, je peux vous parler d'évaluation. Ma spécialité, c'est plutôt de travailler sur les politiques d'éducation, comme l'a dit Jean-Louis de Rouet. Et j'ai travaillé ces derniers temps sur les politiques d'obligation de résultats dans le monde anglo-saxon, c'est-à-dire en Angleterre, aux États-Unis et aussi en Nouvelle-Zélande. Alors, j'ai découvert évidemment l'évaluation à travers ce travail d'analyse des politiques d'éducation, mais c'est de cette expérience-là que je voudrais vous parler aujourd'hui. En même temps, le monde anglo-saxon fait peur souvent. Hein. On dit, mais finalement, les Anglais, etc., les Américains, ils inventent des trucs un peu bizarres. Mais je crois qu'on peut tirer des leçons intéressantes, justement, d'une approche comparée des politiques d'éducation et des questions d'évaluation, parce qu'on apprend toujours, évidemment, des différences. Et que, surtout, en matière d'évaluation, dans les politiques d'éducation anglo-saxonne, il y a maintenant 20 ans d'expériences qui ont été conduites. Hein, et on a capitalisé un certain nombre de travaux intéressants, donc au niveau de la recherche, mais pas seulement, au niveau de la mise en œuvre des politiques d'éducation elles-mêmes. Alors, ces politiques d'obligation de résultats, du coup, elles sont intéressantes à analyser. C'est un petit peu de ça dont je vais vous parler ce matin. Parce que ce qui est intéressant chez les anglo-saxons, c'est que ce sont des pragmatiques. Hein, c'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à élaborer des grandes philosophies de l'éducation ou des grands modèles théoriques, mais ils ont une approche, je dirais, de résolution de problèmes. C'est-à-dire la question qui se pose, c'est quand on met en place un dispositif d'évaluation ou une politique d'évaluation ou une nouvelle démarche d'évaluation, la question est-ce que ça marche ? C'est-à-dire, est-ce que ça a des effets en termes de transformation des pratiques enseignantes? Et puis surtout, est-ce que ça a des effets dans l'amélioration de la réussite des élèves? Alors, j'ai bien aimé ce qui s'est dit en introduction, c'est-à-dire que l'expérience anglo-saxonne montre bien que c'est d'abord de la pratique et des pratiques expérimentales qu'on peut véritablement produire des résultats et que le travail de proximité entre les chercheurs et les praticiens est essentiel, non seulement à l'expérimentation elle-même, mais aussi ensuite à sa généralisation et à la diffusion de ces innovations, ces expérimentations, au moins à une échelle, à une échelle nationale, même si le local est important dans ces pays. Donc, l'objet un petit peu de ma communication, c'est d'essayer de vous présenter une expérimentation sur l'évaluation qui a réussi, de certaine manière. Cette expérimentation, elle a mobilisé non seulement des chercheurs, mais aussi des praticiens sur un temps long. Elle a réussi au sens où elle a amélioré, elle a changé les pratiques pédagogiques des enseignants. Elle a amélioré la réussite des élèves et c'est devenu non seulement une politique nationale, mais aussi une référence au niveau international. Donc, je trouvais ça assez intéressant de vous présenter cette politique d'évaluation. Alors, avant ça, je vais essayer de situer, avant de la présenter dans le détail, je vais essayer de situer cette expérimentation, cette politique, dans le contexte français. Parce que, évidemment, on ne part pas de rien et il y a des réflexions qui ont été conduites sur l'évaluation depuis un certain nombre de temps. Donc, j'ai commencé par là et mon exposé sera en deux parties. Alors, la question en France, c'est, finalement, je l'appelle ça le mythe de Sisyphe, hein, la question qui se pose, c'est comment se démarquer de la notation pour évaluer les apprentissages. Alors, je voudrais partir d'un cas d'école pour expliquer un petit peu le problème, parce que les enseignants finalement sont assez peu enclins à sortir des pratiques de notation. Et là, j'ai rencontré une enseignante du primaire qui avait adressé une lettre aux parents d'élèves et qui exprimait finalement implicitement un certain nombre de difficultés qu'ils pourraient rencontrer par rapport à justement des pratiques d'évaluation. Donc on voit bien là, dans cette lettre qu'on voit qu'a adressée la professeure d'école aux parents d'élèves, que l'évaluation, d'abord, ça se réduit fortement à la notation, et puis que surtout, l'évaluation, c'est surtout l'affaire des élèves, c'est pas tellement la sienne. Hein. C'est-à-dire qu'elle considère que que les devoirs ne sont pas faits, que les leçons ne sont pas revues régulièrement, que l'élève doit réviser régulièrement pour améliorer ses apprentissages. Elle propose de multiplier les récitations de leçons surprises. Donc là, on est véritablement dans une fonction d'évaluation qui a été évoquée ce matin, une fonction de contrôle, et finalement contrôle disciplinaire de la classe ou contrôle disciplinaire des élèves. Alors, on peut penser pourtant, c'est une jeune enseignante, hein, elle a quelques années d'expérience, mais elle sort de ce qu'on appelait encore l'IEFM, mais on peut penser que cette enseignante, finalement, n'a pas intégré déjà le triptyque de l'évaluation, c'est-à-dire l'évaluation sommative, l'évaluation diagnostique et l'évaluation formative, qui sont finalement le modèle un petit peu enseigné dans les IEFM, enfin en formation initiale, en formation continue. Donc déjà, on voit bien qu'il y a un décalage entre les pratiques véritablement d'évaluation des enseignants sur le terrain et puis évidemment les contenus de formation, enfin la formation qui leur est dispensée sur les questions d'évaluation. Donc, il faut quand même se rappeler cette réalité-là, elle méritait d'être soulignée. Alors, ensuite, le fait que les enseignants ont essentiellement dans la démarche d'évaluation des pratiques de notation, ça a été dit à travers un certain nombre de rapports de l'inspection générale ou d'avis émis par le Haut Conseil de l'évaluation de l'école. En 96, l'inspection générale dans son programme de travail établissait déjà, disait en conclusion, des grandes transformations s'opéreront lorsque les enseignants comprendront que la pratique de l'évaluation est au cœur de leur enseignement, qu'elle ne se résume pas à la seule notation et qu'elle suppose pour cela d'établir un dialogue avec les élèves et les parents. Mais aussi, l'inspection ajoutée, lorsque les chefs d'établissement se sentiront capables et mandatés pour piloter les équipes pédagogiques, et lorsque ces chefs d'établissement et inspecteurs se concerteront régulièrement sur les pratiques, méthodes, outils d'évaluation, et qu'ils introduiront en priorité l'évaluation dans le plan de formation de chaque professeur. Bon, ça c'était en 96, donc il y a 12 ans maintenant. Alors, on peut penser que les choses ont évolué, mais j'en suis pas tout à fait sûr. Autre problème qui se pose dans le système éducatif en termes d'évaluation et qui a été aussi dit à de nombreuses fois dans de nombreux rapports, c'est le faible usage que font les enseignants des évaluations nationales. C'est-à-dire que généralement, et on avait fait dans le cadre de l'INRP une grande enquête pour la DPD, le commissariat au plan, sur une durée de 18 mois, on s'est aperçu que les enseignants se contentaient de faire passer des tests aux élèves et que généralement ils s'empressaient, malgré les instructions officielle, d'oublier les résultats. En termes de restitution des informations aux familles, le dialogue sur le résultat des élèves est assez faible, réduit à sa plus simple expression, et il y a souvent assez peu de discussions sur les modalités et les critères d'évaluation qui sont utilisés par les enseignants, parce que tout simplement, les enseignants considèrent que c'est une atteinte à leur autonomie pédagogique ou à la légitimité professorale. Alors, depuis des années, on parle de développement d'une culture de l'évaluation dans l'éducation nationale. On peut considérer que cette culture de l'évaluation, elle a pénétré l'encadrement de l'éducation, mais assez peu, finalement, le monde enseignant. Elle est encore, comme je l'ai dit, perçue comme un outil de contrôle, et pas véritablement comme une ressource qui pourrait aider le travail enseignant et qui pourrait aider les enseignants à résoudre les problèmes concrets qui se posent dans la classe et en termes aussi d'apprentissage des élèves. Alors la sociologie a dit un certain nombre de choses aussi de manière critique sur la notation. Je pense aux travaux de Pierre Mel, hein, qui est un chercheur rennais qui a capitalisé un certain nombre de ses travaux dans une publication récente, où il montre que la réalité de la notation est assez complexe finalement, que c'est une activité technique, hein, qu'elle mobilise des compétences d'experts, mais c'est aussi une activité sociale. Et que, en fait, les enseignants modulent leur notation selon qu'ils veulent être sévères ou indulgents avec les élèves, selon qu'ils veulent les motiver, selon qu'ils veulent démontrer leur autorité, selon qu'ils veulent préserver de bonnes relations pédagogiques dans la classe. Donc on voit bien que la notation, c'est ce que montre Merle, est vraiment dépendante du contexte général propre à chaque discipline et à l'identité de l'établissement. Et dans son livre, il parle des petits arrangements auxquels donne lieu la notation des élèves, c'est-à-dire que l'enseignant et les élèves négocient en permanence pour maintenir l'ordre de toute façon dans la classe, pour définir la situation. Quelques exemples relevés par Merle. On va pas noter une note trop difficile dans la moyenne trimestrielle. On va refaire un devoir plus facile pour équilibrer les notes suite à un devoir difficile. On va jouer avec les coefficients. On va pouvoir, on va gratifier aussi les élèves d'un bonus pour les plus méritants, par exemple. Donc voilà. Donc s'opère finalement de subtiles négociations autour de la notation, à la fois sur l'interprétation du barème, sur la comparaison entre les élèves, et aussi sur les modalités d'engagement des élèves pour trouver ce compromis finalement sur la notation. Et ces petits arrangements, ils s'étendent aussi à la fabrication des résultats de baccalauréat. On s'aperçoit qu'on a des interprétations professionnelles très divergentes, hein, dans l'élaboration et la conception des sujets, dans l'harmonisation des corrections, et que derrière les prescriptions officielles, il y a toute une communication informelle, une pression des pairs qui s'exerce et qui contribue finalement à, pour les spécialistes de l'évaluation, il dirait comme ça, à biaiser d'une certaine manière les résultats de l'évaluation elle-même. Alors, sur les évaluations nationales, je reviens un petit peu pour présenter quelques résultats qu'on avait réussi à faire valoir auprès de la direction de la programmation et du développement dans notre grande enquête. On s'est aperçu que les évaluations nationales n'étaient pas utilisées par les enseignants, sans doute pour de mauvaises raisons, mais aussi pour de bonnes raisons. C'est-à-dire que on s'est rendu compte que ces évaluations étaient trop techniciste, hein, c'est-à-dire que le mode d'emploi et les consignes de passation étaient souvent assez mal compris par les enseignants, mais tout simplement parce qu'ils n'étaient pas très très lisibles. On s'est rendu compte que à l'époque on travaillait sur le logiciel Casimir, qui est depuis devenu le logiciel Jade, mais que ce logiciel était relativement complexe pour l'analyse des données, même pour des professeurs de mathématiques, hein, parce que ces évaluations nationales concernent le français, enfin concernaient à l'époque le français et les mathématiques. Donc il y avait des complexités dans la maîtrise des fonctionnalités du logiciel, il y avait une complexité dans la maîtrise par les enseignants de compétences statistiques pour pouvoir véritablement lire les données, et puis il y avait une complexité qui était liée au fait que les enseignants avaient des difficultés pour inférer à partir des données des stratégies pédagogiques ou de remédiation des élèves en difficulté. On s'est rendu compte aussi que ces enseignants avaient rencontré un certain nombre de difficultés dans l'analyse des erreurs. Que même si soit ils connaissaient ces erreurs et donc ils ne voyaient pas l'utilité véritablement de l'évaluation qui avait été faite avec les outils de la DEP, soit ils ne savaient pas restituer ces erreurs dans leur contexte pédagogique. Et on s'est aperçu que, bien que le ministère avait mis en place des banques d'outils à disposition des enseignants sur son site internet, eh bien il y avait une ignorance assez généralisée de la présence de ces banques d'outils, où quand les enseignants en avaient connaissance, finalement très peu, ils n'en percevaient pas véritablement, pas vraiment l'intérêt. Donc voilà un petit peu la situation, ma lecture de l'évaluation la place de l'évaluation en France, essentiellement la notation, et une difficulté à diversifier, à s'extraire la notation et à diversifier les modes d'évaluation des apprentissages des élèves. Alors maintenant, on sait au niveau de la recherche internationale, on a capitalisé un certain nombre de résultats et on sait un certain nombre de choses sur ce registre de l'évaluation sommative. Hein, parce que pour l'instant, j'ai parlé de l'évaluation éventuellement sommative ou diagnostique. Si on prend au pied de la lettre le principe même des évaluations nationales, qui sont des évaluations diagnostiques, qui sont là pour formuler un diagnostic sur les difficultés de l'élève, pour ensuite mettre en œuvre une stratégie d'apprentissage. Eh bien, là, je pars d'une synthèse qui a été établie par l'Evidence, le PPI Center, donc qui est un centre de revue de la littérature de recherche au niveau international, hein, et qui est chargé de produire des connaissances et de faire un état des lieux des connaissances scientifiques sur différents domaines, et ensuite de les présenter auprès des chercheurs, des praticiens, mais aussi des décideurs politiques. Donc, dans la perspective toujours de recenser dans les travaux les dispositifs ou les politiques qui marchent. Alors, qu'est-ce qu'on sait maintenant sur l'évaluation sommative? Eh bien, ce qui améliore l'évaluation sommative, alors je parle d'amélioration parce que je ne rentre pas dans le détail technique, il y a des spécialistes de l'évaluation ici, et donc on sait que l'évaluation, il y a des critères de fiabilité, de pertinence, de validité, hein, quand on évalue des élèves. Bon, je ne suis pas un spécialiste de toutes ces méthodes, donc je ne peux pas en parler véritablement, mais enfin, ce qui améliore l'évaluation sommative au sens, ce qui la rend plus efficace en termes de réussite des élèves, hein, c'est dans ce sens-là que je le dis, eh bien on s'aperçoit que cette évaluation doit couvrir l'ensemble du travail de classe, mais elle doit aussi décrire finement les niveaux atteints par les élèves dans leurs apprentissages, mais surtout que l'évaluation sert à la réussite des élèves si les enseignants ont véritablement été formés pour cela, ont été formés au modèle d'évaluation, à leur usage et à des instruments d'évaluation, et surtout si cette évaluation est concertée dans l'établissement, c'est-à-dire s'il y a une coopération, un travail pédagogique entre les enseignants d'une même discipline, les enseignants qui sont engagés sur un même projet. Et donc là, on a des effets véritablement d'usage effectif, efficace de l'évaluation dans l'amélioration de la réussite des élèves. Par contre, ce qui nuit à cette efficacité de l'évaluation sommative, c'est quand les enseignants utilisent trop fortement des grilles standardisées, hein, comme des grilles de compétences transversales par exemple, lorsqu'ils utilisent l'évaluation pour définir des tâches trop spécifiées pour les élèves, qui s'en servent en termes d'usage dans un contrôle véritablement de l'activité de la classe au sens disciplinaire. Lorsque dans l'évaluation on intègre des informations qui n'ont rien à voir avec les apprentissages mais qui concernent plus le comportement ou l'identité des élèves, ce qu'on appelle évidemment des variables savoir-être, et lorsque les procédures même de l'évaluation, les différentes étapes de l'évaluation ne sont pas clairement définies, et surtout quand l'évaluation ne fait pas sens pour les élèves, c'est-à-dire quand les objectifs de l'évaluation ou les critères d'évaluation n'ont pas été communiqués aux élèves et qu'ils sont incapables de savoir là où on les emmène. Donc, ces éléments-là sont déjà intéressants, j'irais, à réfléchir et à travailler, mais là, j'ai évidemment abordé qu'une des une grande approche de l'évaluation qui est plutôt l'évaluation sommative, alors que, comme on l'a montré le triptyque tout à l'heure, l'évaluation c'est aussi l'évaluation diagnostique et de l'évaluation formative. Donc là maintenant, je puisse parler de l'évaluation formative, et j'ai utilisé le terme non pas formatif mais évaluation pour les apprentissages, une traduction de assessment for learning qui s'oppose à assessment of learning. Tout simplement, et je pense que les anglo-saxons, justement, n'utilisent pas ce terme-là d'évaluation formative, mais bien d'évaluation pour les apprentissages, parce que quand on parle d'évaluation formative, finalement, on a toujours l'impression que c'est l'enseignant qui forme l'élève, d'une certaine manière, et que l'évaluation est un support pour mieux former l'élève. Alors que l'évaluation pour les apprentissages, j'aurais pu traduire assessment for learning, l'évaluation pour apprendre, mais là on est encore finalement dans le processus véritablement de l'enseignement, du teaching d'une certaine manière. Et l'évaluation pour les apprentissages, ça a finalement un intérêt double, c'est que ça montre que d'une certaine manière, l'apprentissage, ça concerne l'enseignant, mais ça concerne aussi l'élève. Et donc l'élève doit être, d'une certaine manière, partie prenante dans la démarche d'évaluation elle-même. Et puis on sait que les apprentissages, ils sont contextualisés. Hein, c'est-à-dire que les apprentissages, ils prennent toujours place dans un environnement. Et donc ça met l'accent aussi sur l'environnement, que j'appellerais l'environnement informationnel, ou l'environnement cognitif, d'une certaine manière, de l'enseignant et des élèves. Et donc d'une certaine façon, c'est une façon d'ouvrir cette fonction de l'évaluation et d'élargir cette notion d'évaluation. Je pense que finalement, pour bien comprendre l'évaluation et pour sortir justement de ce triptyque évaluation sommative, évaluation formative ou évaluation diagnostique, il faudrait finalement, au moins en langue française, supprimer le terme d'évaluation lui-même. Et je pense qu'en supprimant, pas non plus, en n'utilisant plus le terme d'évaluation, on pourrait commencer à véritablement réfléchir à ce qu'est l'évaluation. Enfin bon, ça c'est un point de vue personnel, mais j'aurai l'occasion de le présenter éventuellement dans l'atelier de demain. Alors, sur l'évaluation pour les apprentissages, il y a eu une expérimentation britannique dont je vais parler longuement, et c'est celle dont je parlais en introduction, hein, et c'est intéressant parce que cette expérimentation réussie, qui s'est centré sur l'évaluation pour les apprentissages, est devenu une politique nationale et a eu une reconnaissance internationale. Donc je me suis dit que ce serait intéressant quand même de vous faire partager cette expérience-là. Alors, je vais resituer ça dans une perspective un petit peu de longue durée, parce que finalement la notion d'évaluation pour les apprentissages, elle n'est pas venue comme ça par l'opération du Saint-Esprit, et elle correspond finalement à une longue évolution de la politique anglaise et des réflexions qui ont accompagné cette politique anglaise au cours des 20 dernières années. Bon, ce qu'il faut bien dire, c'est que en Angleterre, le socle commun, hein, l'obligation de résultat, ils l'ont découvert à la fin des années 80, hein, donc c'est 20 ans avant nous, et d'une certaine manière, ils ont eu le temps de réfléchir à l'intérêt, mais aussi aux limites d'une politique d'obligation de résultat. À la fin des années 80, en Angleterre, on met en place donc une politique d'obligation de résultat, c'est-à-dire avec l'idée que les élèves vont maîtriser des compétences de base à différents niveaux de scolarité, et on met en place les key stages, c'est-à-dire différentes étapes finalement d'apprentissage des élèves tout au long de leur scolarité obligatoire, avec des tests de réussite des élèves à différents niveaux. On peut considérer que c'est la mise en œuvre d'évaluations nationales avec des tests sommatifs. Alors à l'époque, les experts de l'évaluation disent au ministère de l'Éducation anglais, ne faites pas que des tests sommatifs, des tests externes, mettez en place une évaluation formative couplée à ces tests sommatifs, à ces évaluations nationales. Le ministère de l'Éducation refuse pour différentes raisons, c'est trop cher, etc. Et puis on s'est rendu compte finalement dans la mise en œuvre de ces tests, de ces évaluations nationales, évaluations externes, que les enseignants rencontraient un certain nombre de difficultés, et puis qu'il y avait de plus en plus de récriminations, non seulement de la part des enseignants, mais aussi de la part des chefs d'établissement. Donc un task group, c'est-à-dire un groupe de travail sur l'évaluation et le testing a été constitué, et qui a commencé à réfléchir et à voir un petit peu les problèmes qui se posaient dans le système éducatif anglais. Donc leur conclusion, eh bien, c'est celle-là, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que les enseignants accordaient plus d'importance à d'autres formes d'évaluation que les tests, hein, parce que tout simplement ils construisaient leurs outils d'évaluation à partir des problèmes qu'ils rencontraient dans leur enseignement et dans la classe, et pas véritablement à partir d'instruments qui étaient d'une certaine manière importés artificiellement en dehors de l'établissement. Et ils se sont rendus compte aussi que les scores de réussite couvraient une trop grande étendue de compétences à évaluer, ce qui rendait difficile la comparaison des élèves entre eux. Donc même les concepteurs de l'évaluation étaient gênés d'une certaine manière, parce que à l'époque, hein, l'idée quand même c'était d'utiliser les scores pour faire des comparaisons entre classes, mais aussi entre établissements scolaires, et donc d'aider d'une certaine manière à la fois les décideurs politiques, mais aussi les parents d'élèves à mieux choisir leur établissement scolaire. Et puis ils se sont rendus compte que les enseignants n'avaient pas le temps d'utiliser l'information à leur disposition, c'est-à-dire qu'ils étaient accaparés par des tâches diverses. Donc les enseignants anglais, leur particularité, c'est qu'ils ne travaillent pas seulement dans la classe, ils sont largement aussi engagés dans des activités dans l'établissement, mais ils n'avaient pas vraiment le temps, en plus de leurs activités, de saisir l'information du fait du nombre trop important de données. Et donc ils en sont arrivés au constat que trop d'informations, finalement, tuaient l'information. Donc ça a mis du temps évidemment à réfléchir à comment améliorer cette approche de l'évaluation sommative assez fortement prescriptive pour les enseignants anglais. Il y avait beaucoup de questions qui étaient débattues à l'époque, même au sein de la communauté de recherche. On se posait la question, qu'est-ce que cache l'augmentation des taux de réussite des élèves au test? Est-ce que c'est pas un petit peu artificiel? Est-ce que les élèves apprennent mieux? On pouvait avoir une augmentation des résultats au test, mais on ne savait pas véritablement si ça avait changé véritablement l'apprentissage des élèves. On se posait la question, est-ce que les examens, les tests ne devenaient pas plus faciles? Est-ce que ces tests ne contribuaient pas à réduire l'étendue des connaissances acquises par les élèves? Est-ce qu'il n'y avait pas des effets pervers? Alors, à l'époque, on parlait beaucoup de « teaching to the test », hein, c'est-à-dire cette pratique systématique de l'enseignement en fonction des résultats attendus au test, qui avait tendance finalement à exercer une pression forte sur les élèves et puis qui avait des effets assez négatifs sur le plan pédagogique. Puis on se rendait surtout compte que les enseignants ne savaient toujours pas utiliser l'information et les données qui étaient mises à leur disposition, et on se posait la question comment faire en sorte que ces enseignants utilisent mieux l'évaluation pour rendre les élèves plus efficaces dans les compétences à acquérir. Donc un autre groupe de réflexion s'est constitué au niveau national, l'Assessment Reform Group, donc le groupe de réforme sur l'évaluation en 97, un groupe d'experts qui a été dirigé par deux professeurs éminents, Paul Black et Dylan William du King's College, et ils ont conduit une revue de la littérature de recherche sur l'évaluation formative pour voir si justement c'est l'évaluation formative pouvait pas contribuer à améliorer la réussite des élèves au moins, voire mieux, voire autant que les tests traditionnels. Et ils ont décidé de le faire d'une manière assez novatrice, en liant, donc non seulement en conduisant cette revue de la littérature internationale de recherche, mais en essayant d'aller voir sur le terrain, en travaillant avec des enseignants dans le cadre d'une expérimentation, si on ne pouvait pas tester d'une certaine manière sur le terrain cette idée d'évaluation pour les apprentissages, enfin évaluation formative d'abord, et qui est devenue ensuite évaluation pour les apprentissages. Donc ils ont mis en place le programme KMOFAP avec trois districts, King's, Medway et Oxfordshire, avec des enseignants. Donc six établissements scolaires ont été mobilisés, composés d'élèves âgés de 11 à 18 ans, donc dans trois districts, 48 enseignants impliqués dans la réflexion et qui ont été suivis par les chercheurs pendant 2 ans. Dans le cadre d'un développement professionnel. Alors, le développement professionnel, c'est quoi? C'est l'idée que la formation des enseignants, classiquement, les stages de formation classiques ne sont pas très efficaces dans le changement des pratiques pédagogiques, et que si on veut véritablement transformer les pratiques pédagogiques, il faut faire en sorte que les enseignants travaillent en petits groupes sur des objets précis et des objets qui correspondent finalement aux questions qui se posent dans leur pratique professionnelle. C'est l'idée aussi que le développement professionnel, c'est d'abord une formation sur site à la demande de l'établissement, dans le cadre d'une obligation de formation continue qui est faite aux enseignants anglais, mais avec l'idée que cette formation sur site, véritablement, permet de se centrer sur les problèmes de l'établissement et les problèmes que les enseignants rencontrent dans leur classe. Et le développement professionnel doit être basé non seulement sur l'utilisation des travaux de la recherche, mais sur des échanges de pratiques régulières entre collègues et sur la participation des enseignants à des programmes d'innovation, d'expérimentation ou de recherche. Donc c'est tout ça l'idée de développement professionnel. Donc là, l'idée du programme KN-OFAP, c'était véritablement de mettre en place un développement professionnel des enseignants pour que non seulement les chercheurs réfléchissent à la place de l'évaluation formative dans les apprentissages, mais aussi que les enseignants, d'une certaine manière, y réfléchissent et qu'il y ait véritablement une fertilisation mutuelle entre les apports des chercheurs et les apports des enseignants qui venaient, d'une certaine manière, des enquêteurs sur leurs propres pratiques. Alors, on est sorti un livre, Inside the Black Box, dans la boîte noire, un petit livret d'ailleurs, c'est pas vraiment un livre, qui a été vendu à 40 000 exemplaires, donc il y a eu un certain succès. Je crois que c'est une première fois en Angleterre que la littérature de recherche est lue autant par des enseignants ou des praticiens. Et Black et William ont dû rencontrer 20 000 enseignants et ont dû faire 400 conférences à la suite de la publication de leur ouvrage pour montrer le retentissement que ça peut avoir en Angleterre, cette expérimentation. Donc là, on peut dire que c'est une généralisation réussie de l'expérimentation. Alors, l'idée de l'évaluation comme développement professionnel, c'est-à-dire donc sur 2 ans, eh bien, c'est opéré donc dans ces 3 districts des rencontres régulières avec les chercheurs, un jour, une journée toutes les 5 semaines, des visites et des observations des situations de classe qui étaient faites par les chercheurs, mais aussi par les enseignants qui venaient observer leurs pratiques mutuelles. Et puis, chaque observation, chaque analyse faisait l'objet d'un compte-rendu dans des séances avec des questions collectives qui étaient adressées par les chercheurs aux enseignants, mais que les enseignants, évidemment, interrogeaient aussi les chercheurs. Et on a donné, évidemment, beaucoup de temps, beaucoup de liberté, beaucoup de souplesse, et en même temps, en cherchant systématiquement à soutenir la réflexion des enseignants, en leur livrant au fur et à mesure que leur réflexion avançait sur la pratique pédagogique des éléments de la recherche. Et on a orienté donc cette démarche sur la recherche de solutions concrètes, c'est-à-dire l'idée que on partait des problèmes que se posaient les enseignants en termes de changement de leur pratique d'évaluation, et que la recherche était là non pas pour leur imposer une théorie tout prête construite ou un modèle tout préfait, mais véritablement les aider à changer leur pratique d'évaluation et qu'ils aient une approche réflexive sur le changement de leur pratique. Alors les résultats, parce qu'il faut tout de suite parler des résultats, parce que quand on met une expérimentation comme ça, est-ce que ça a eu évidemment des résultats? Oui, ça a eu des résultats et des résultats bénéfiques. C'est pour ça que ça a eu un si grand retentissement en Angleterre. C'est d'abord que on s'est aperçu que ce changement des pratiques d'évaluation conduisait à un engagement plus important des élèves en difficulté, notamment les élèves les plus fragiles. On s'est rendu compte que ces élèves développaient des attitudes positives dans les apprentissages, ils étaient plus motivés et plus confiants envers l'enseignant. On s'est rendu compte que ça changeait complètement les comportements et la coopération des élèves en classe, mais entre eux, mais aussi avec l'enseignant. On s'est rendu compte que plus d'élèves étaient maintenant capables d'anticiper leurs échecs et leurs réussites aux tests et aux examens. Et que, globalement, c'est ce qui intéressait plus les décideurs politiques, que les élèves avaient amélioré leur réussite aux évaluations nationales. Donc on a considéré que comme ça améliorait la réussite aux tests des élèves, il fallait l'intégrer dans une politique nationale, et on a intégré l'idée d'évaluation formative au niveau du Kate Stage 3, c'est-à-dire l'équivalent du collège. Alors, depuis, il a été supprimé, ce Kate Stage. Il vient d'être supprimé en octobre. Et on a complètement changé, on a abandonné ce système de test, finalement, au collège en Angleterre. Mais c'est assez récent, et il y a eu évidemment un débat sur la pertinence ou pas de maintenir ces tests au collège, mais il semble qu'aujourd'hui en Angleterre, on aille vers véritablement une transformation complète de la façon dont on envisageait l'évaluation des élèves. Alors, ça c'est des résultats, mais dans le travail de 2 ans qui a été conduit avec les chercheurs et les enseignants, il y a un certain nombre de constats qui ont été établis et qui ont nourri finalement cette démarche d'enquête réflexive. Donc le premier constat sur lequel sont partis les enseignants avec les chercheurs, c'est qu'ils se sont rendus compte que les élèves lisaient rarement les commentaires des enseignants. C'est-à-dire que les élèves préféraient comparer les notes entre eux et de voir finalement comment ils se situaient par rapport à la moyenne de 10. Ils sont aperçus aussi les enseignants accordaient peu de temps à la classe pour que les élèves lisent leurs commentaires. C'est-à-dire que essentiellement la lecture des commentaires des enseignants se faisait à la maison. Que ces commentaires, comme l'illustre ici la photo, étaient souvent peu spécifiés, c'est-à-dire des interrogations, orthographe, détail, vrai, faux, bien, à revoir, mais que finalement, il n'aidait absolument pas l'élève à remédier à ses difficultés. Ils sont aperçus aussi que les mêmes commentaires réapparaissaient souvent dans les travaux des élèves, ce qui montrait que finalement les élèves n'en tenaient pas compte et qu'ils ne se corrigeaient pas. Donc on voyait bien les limites finalement de ces commentaires. Donc le premier travail, assez simple finalement, a été de travailler sur les commentaires des enseignants sur les copies d'élèves. Le deuxième constat, c'est que les enseignants se sont rendus compte qu'ils donnaient trop d'importance à la notation, qu'ils mettaient trop l'accent sur la comparaison entre les élèves, et que surtout, l'évaluation servait davantage au contrôle disciplinaire dans la classe, lever la main, la gestion du groupe classe, que véritablement les apprentissages eux-mêmes. Et que la façon de poser des questions était elle-même rédhibitoire, parce que souvent, elle invitait davantage les élèves au silence et qu'elle générait souvent chez eux un sentiment de culpabilité. Donc l'idée, je vais en parler tout à l'heure, mais l'idée a été aussi de travailler le questionnement oral des élèves dans la classe. Alors, l'évaluation pour les apprentissages, et ce qui est sorti de ces 2 années de travail avec les chercheurs, c'est l'idée que c'est d'abord un processus, c'est-à-dire qu'il est véritablement continu, la démarche d'évaluation est un processus continu, qu'elle consiste à interpréter les informations dans la classe, et donc la classe est véritablement considérée comme un environnement cognitif et informationnel dans lequel l'enseignant, mais aussi les élèves, vont chercher de l'information. Ils cherchent cette information pourquoi ? Pour savoir où en sont leurs élèves dans les apprentissages. Donc c'est déjà le but de l'évaluation sommative ou diagnostique, mais aussi vers où vont les élèves en termes de démarche d'apprentissage. Donc il y a l'idée d'une dynamique et d'une temporalité de l'évaluation qui doit accompagner les apprentissages et le cycle des apprentissages sur le trimestre ou sur l'année. Et surtout aussi la question: comment on s'y prend pour améliorer les apprentissages? Comment on s'y prend? C'est plus seulement une question que se pose l'enseignant, c'est aussi une question que se pose l'élève, et l'élève et l'enseignant cherchent à résoudre ensemble ce problème des apprentissages. Alors, que signifie l'implication des élèves dans leur apprentissage? C'est tout simplement aider les élèves à comprendre leur propre travail, leur faire acquérir des compétences pour qu'ils puissent repérer leurs erreurs et puissent se corriger, mais pour cela qu'ils puissent utiliser aussi davantage les réponses des autres élèves qui doivent servir de référence et participer à la démarche cognitive ou individuelle des élèves. C'est aussi utiliser l'auto-évaluation des élèves ou l'évaluation entre pairs dans la classe comme une ressource pour conduire cette démarche d'évaluation dans la classe. Alors ça s'est fait évidemment progressivement, parce que les enseignants anglais eux-mêmes étaient assez rétifs à l'idée de déléguer des compétences dans l'évaluation aux élèves dans la classe. Et on peut dire que les enseignants ont réussi à mettre en œuvre ces démarches d'auto-évaluation et d'évaluation par les pairs au bout de 2 années, et que au lancement de l'expérimentation, ils ont surtout travaillé les questions orales et les commentaires. Donc mettre en œuvre des questions orales efficaces et ouvertes, c'était la première étape du développement professionnel des enseignants, c'est-à-dire qu'ils se sont interrogés sur leur questionnement. Pourquoi on interroge les élèves, et surtout comment on interroge les élèves. Et ils se sont aperçus d'une chose assez singulière, c'est que entre le moment du questionnement de l'élève et la réponse attendue de l'élève s'opérait moins d'une seconde en termes de temps. Et donc déjà allonger le temps accordé à l'élève pour qu'il réfléchisse à sa réponse, ça a été déjà un grand pas fait en termes d'amélioration de l'évaluation. Donc donner du temps dans la classe pour réfléchir, et puis ça a été donc de corriger le biais systématique d'une évaluation souvent assez négative du travail de l'élève, pour essayer justement d'avoir une évaluation positive et de travailler sur les commentaires des copies, notamment en demandant aux enseignants systématiquement d'identifier 3 succès de l'élève et une voie d'amélioration possible dans ses apprentissages. Alors, changer les questions posées aux élèves, là j'ai fait un effort de traduction de l'anglais vers le français, donc c'est sans doute imparfait, mais en essayant à chaque fois de montrer le changement du type de questionnement, et changement des pratiques enseignantes, mais aussi les réflexions que ça a pu inspirer aux enseignants, parce que les enseignants étaient partie prenante de ces expérimentations. Donc là, on a un enseignant qui reconnaît que son questionnement était relativement pauvre avant l'expérimentation, que les questions qu'il utilisait pour interroger les élèves, c'était essentiellement pour remplir le temps, mais que ça suscitait peu de réflexion de la part des élèves, et que il dirigeait simplement les élèves sur la réponse correcte, mais sans véritablement chercher à susciter chez eux une démarche cognitive. Donc là, il y a un exemple de question, plutôt que « êtes-vous d'accord ou non ?» qu'est-ce que vous pensez de la réponse de Sophie? Donc ça, c'est la façon de mobiliser les réponses collectives des élèves. Qu'est-ce que l'on peut ajouter à la réponse d'Élise? Paul a dit cela, mais l'heure à exprimer. Ça prend des choses assez évidentes, mais finalement, les enseignants n'étaient pas du tout sensibilisés à cette ouverture du questionnement oral, et c'était un important travail qui a été fait avec les chercheurs. Ensuite, changer les commentaires adressés aux élèves, parce qu'on s'est aperçu que là, le commentaire ne disait absolument rien, c'est les enseignants qui sont aperçus sur le changement dans la réussite de l'élève et son apprentissage. Donc plutôt que de « ah, bien, à revoir », essayer de véritablement détailler le commentaire de façon à obliger l'élève à faire un retour sur son apprentissage et aller réviser dans un manuel ou sur son cahier un certain nombre de choses ou de notions à travers lesquelles il était passé sans véritablement les assimiler. Alors, quels sont les bénéfices d'une évaluation entre les élèves, tels que on peut le ressentir à la fois les enseignants, mais aussi les élèves, hein, puisque les élèves aussi ont été interrogés en retour sur les bienfaits de cette expérimentation. La discussion entre pairs se faisait dans un langage naturel, pour lequel les élèves étaient familiers, et donc les critiques finalement étaient mieux acceptées entre élèves que les critiques de l'enseignant. Ce qui fait que ça avait un effet important en termes de retour de l'élève sur ses difficultés, la correction de ses erreurs. L'enseignant donnait plus d'attention au groupe et ça renforçait la prise de parole des élèves, puisque là, chaque élève pris dans le groupe pouvait plus facilement intervenir pour répondre aux questions de l'enseignant, et il se sentait moins astreint à un contrôle ou à une baisse de l'estime de soi, surtout si c'était un élève en difficulté, et ça a évidemment facilité la gestion de la classe par l'enseignant, qui pouvait du coup aller plus en profondeur dans l'analyse et la compréhension des difficultés des élèves. En termes d'auto-évaluation, pour les élèves, l'élève devenait plus responsable et devenait plus responsable de son propre apprentissage. Il était davantage capable de connaître, de se projeter dans ses apprentissages et d'identifier et reconnaître les prochaines étapes qu'il devait accomplir. Il était davantage sécurisé donc à l'idée de ne pas toujours être en faute, hein, puisque c'était vécu de manière plus positive et plus dynamique. Et il s'engageait davantage dans la classe, et il devenait plus autonome et davantage motivé. Et pour l'enseignant, ça lui permettait de déléguer un certain nombre de ses fonctions d'évaluation dans la classe aux élèves. Et on s'est aperçu qu'il y avait une amélioration du comportement des élèves, moins de problèmes de discipline. L'enseignant pouvait davantage affiner sa progression pédagogique sur le trimestre ou sur l'année. Et il était mieux à même de saisir les incompréhensions et les processus mentaux des élèves au cours de leur construction. Et il était aidé aussi en cela par par les chercheurs. Donc là, commentaire d'enseignant sur l'évaluation et l'auto-évaluation entre les élèves. Là, on s'est rendu compte, une enseignante Alice se rend compte que les élèves, finalement, ont gagné en maturité et en sensibilité, qu'ils sont tout à fait capables d'évaluer leur travail, mais aussi d'évaluer le travail de leurs camarades, et que c'est une façon de les valoriser dans le travail en classe. Et ça s'est révélé être un moyen stimulant pour les élèves de se poser leurs propres questions et donc de pouvoir véritablement être en situation d'auto-évaluation. Alors, quand je dis ça, donc l'évaluation formative, il faut la resituer dans un contexte plus large, hein. Si on se pose la question de l'évaluation, on peut se poser la question de ses finalités, de ses usages, du type de tâche, des acteurs qui, finalement, sont au jugement même, au principe même du recueil d'informations et du jugement sur l'action et les situations, et des modalités de rendre compte. L'évaluation pour les apprentissages s'inscrit dans une démarche d'évaluation formative à côté d'une évaluation sommative, et donc la réflexion qu'on cherchait à conduire ces chercheurs et ces praticiens, c'est comment essayer d'intégrer les deux, mais en même temps d'élargir les perspectives sur l'évaluation. Ils ont proposé un cadre élargi de l'évaluation, où on retrouve l'évaluation pour les apprentissages, mais d'essayer de l'élargir en intégrant l'idée que c'est une démarche, l'évaluation, ça peut être une démarche informelle ou une démarche formelle, qu'elle peut être formative ou sommative, qu'elle peut avoir pour objet d'informer les prochaines étapes de l'apprentissage, mais elle peut aussi informer sur ce qui a réussi dans l'apprentissage de l'élève jusqu'à aujourd'hui. Elle peut être collectée comme un élément normal du travail en classe, mais elle peut être collectée selon des devoirs ou des examens séparés. La base du jugement, ça peut être l'élève, ça peut être l'enseignant, mais ça peut être aussi l'élève. On peut élaborer des critères communs à la classe ou des critères individuels. Et l'idée importante qui était soulignée par cette expérimentation, c'est l'idée du feedback ou du retour d'information pour l'élève et l'enseignant sur sa pratique pédagogique ou sur son apprentissage. Et à partir de là, on peut concevoir différentes démarches de l'évaluation, auto-évaluation, évaluation par les pairs, test individuel ou collectif, devoir ou examen, et réfléchir du coup à la conception d'outils, enfin d'équipements de l'évaluation plus appropriés. Donc si on essaie de réfléchir à cette place de l'évaluation formative, évaluation pour les apprentissages, et sur un cadran qui oppose évaluation formative, évaluation sommative, évaluation formelle, évaluation informelle, on peut dire que l'essentiel des enseignants en France sont plus sur l'évaluation formelle et l'évaluation sommative, c'est-à-dire la notation des élèves et des examens. Dans les expérimentations, on voit bien qu'il y a une tentative d'un bon nombre d'enseignants d'échapper justement à cette emprise de l'évaluation formelle et sommative en allant vers une évaluation plus informelle, et notamment en développant des grilles d'évaluation des compétences des élèves, ou éventuellement en réfléchissant davantage à des tests individuels ou collectifs qui viennent renforcer d'une certaine manière la planification pédagogique, mais la difficulté est de basculer, j'irais dans la partie nord du cadran, c'est-à-dire d'amener les enseignants véritablement à travailler sur leurs commentaires écrits, sur leurs questionnements oraux ou sur des démarches d'évaluation entre pairs ou auto-évaluation des élèves. Et je pense que là, il y a un vrai travail à faire, non seulement de la part de la recherche, mais aussi de la formation, en interaction avec les praticiens, pour arriver justement à sensibiliser les enseignants à des démarches d'évaluation formative, soit évaluation formelle, soit évaluation informelle, comme je viens de le décrire, c'est-à-dire comment passer de l'étape 2 à l'étape 3 ou 4. Enfin, je ne sais pas si c'est des étapes, d'ailleurs, mais enfin bon. Donc, cette expérimentation sur l'évaluation pour les apprentissages donc, a eu un succès national, comme je l'ai dit, mais aussi international, puisqu'un certain nombre de pays ont adopté cette démarche de l'évaluation formative et donc forment les enseignants à cette nouvelle approche de l'évaluation, donc Angleterre, Écosse, beaucoup de pays anglo-saxons, mais aussi des pays scandinaves, la Finlande et le Danemark. Et ce qu'on peut dire, c'est que, en conclusion, c'est que cette évaluation pour les apprentissages est certes une composante du système d'évaluation de l'enseignant. Bon, qu'elle ne prend sens en fonction des questions qu'il se pose quant aux finalités de l'évaluation et de son usage dans son travail pédagogique avec les élèves, que cette évaluation pour les apprentissages permet de sortir d'une dichotomie formative-sommative qui finalement verrouille plutôt l'interrogation sur l'évaluation, qu'elle nous permet véritablement de réfléchir davantage à une interaction entre les apprentissages et l'enseignement, parce qu'il y a un problème franco-français, et que donc il y a des possibilités d'ouverture en termes de démarche d'expérimentation sur d'autres formes d'évaluation qui permettent aussi d'interroger les pratiques pédagogiques des enseignants et de faire en sorte que ces enseignants deviennent les enquêteurs de leurs propres pratiques. Et je pense que c'est là la clé si on veut attendre un changement des pratiques d'évaluation des enseignants. Voilà, donc j'ai mis, on a mis un certain nombre de ressources en ligne au sein de l'UMA Éducation et Politique, où vous pourrez trouver une revue de la littérature de recherche sur l'évaluation pour les apprentissages, une revue de la littérature de recherche aussi sur le développement professionnel des enseignants, avec aussi une vidéo en anglais, mais sous-titrée, que j'ai sous-titrée en français. Bon, c'est un travail un petit peu artisanal, mais tout simplement une vidéo que j'ai été chercher sur le site internet du ministère de l'Éducation anglais, où il y a un certain nombre de, un site dédié justement à des vidéos qui montrent des situations réelles de travail en classe, nourries par la réflexion des chercheurs, des formateurs ou des inspecteurs, et qui sont utilisés comme des outils de formation à distance. Et dans cette vidéo, vous verrez Paul Black expliquer les différents principes de l'évaluation pour les apprentissages et aussi des situations réelles de classe où les enseignants ont mis en œuvre cette démarche. Et vous pouvez aussi donc lire la note de synthèse qu'a fait la veille scientifique de l'INRP sur cette question de l'évaluation pour les apprentissages. Et il y a un gros pavé qui a été produit par l'OCDE, qui recense un certain nombre d'études de cas assez intéressantes, avec des détails justement pratiques sur la façon dont cette évaluation pour les apprentissages a été mise en œuvre dans un certain nombre d'établissements scolaires. Voilà, je vous remercie.